tout de suite sur MDM. Les Landes, c'est ma nature. L'environnement dans notre région. Avec Jeanne-Marie et Marie-Claire. Les Landes, c'est ma nature.
Bonjour les auditeurs de Radio MDR, nous sommes dans les Landes et ma nature, deuxième émission qui est consacrée au centre Alcatorda à Puy de Sceaux, bientôt, enfin qui s'appelle déjà d'ailleurs Paloum, avec toute une évolution dont on a déjà parlé dans une précédente émission. Alors maintenant, nous allons évoquer avec Laura Labarthe, qui est la référente du centre de Puy de Sceaux, la situation des animaux sauvages qu'elle reçoit dans son centre. Bonjour Laura.
Bonjour.
Nous avons beaucoup parlé du centre précédemment. Nous vous avons présenté également avec toutes les facettes de vos activités et des activités des bénévoles. Vous recevez quand même énormément d'animaux puisque vous nous aviez donné le chiffre d'environ
1100.
C'est énorme, 1100. Et donc, vous êtes spécialisé essentiellement sur les oiseaux, et puis les petits mammifères de moins de 6 kilos.
Alors, dresser un tableau serait compliqué, mais effectivement, voilà, on est à peu près à 1100 animaux arrivés par an. Et au niveau des espèces, on est à peu près à 90 espèces différentes accueillies. Voilà, donc ça commence à faire un petit paquet. Et effectivement, au niveau des oiseaux, ça reste très 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 large, vu que c'est vraiment tous les oiseaux de la faune sauvage, de la faune locale. Ça peut être donc tous les petits passereaux, donc là il y a déjà une multitude d'espèces, hein, on est sur un territoire quand même assez varié. Donc tous les petits passereaux, les échassiers, avec l'hiver les grues, etc. On a quand même du gros passage. Tout ce qui est oiseaux marins, puisque la structure a été quand même conçue pour ça, donc sur le littoral on va avoir tout ce qui est fou de bassin, les guillemots, le pingouin tanda, qui était du coup le nom de la structure. On va avoir tout ce qui est rapaces, évidemment, donc les rapaces nocturnes, les rapaces diurnes, tout ce qui est petits passereaux en globalité, les colombidés, les pics, voilà. Donc ça, c'est tous des oiseaux qu'on reçoit très régulièrement, voilà. On a aussi évidemment tout ce qui est limicoles, les anatidés, etc. C'est un peu plus ponctuel, ça va dépendre du coup de la migration. Mais comme on reste sur un territoire qui est quand même très riche, c'est vrai que voilà, on ne s'en rend pas forcément compte. On voit souvent les Landes avec les pins, mais c'est vrai que sur toute la côte, il y a vraiment des grosses réserves. On est vraiment sur un gros couloir migratoire. Donc on a vraiment une multitude d'espèces qu'on peut accueillir, surtout à ce niveau-là, sur les limicoles, etc. On a vraiment des très beaux sites dans les Landes. Donc on a vraiment une multitude d'espèces au niveau des oiseaux. Et au niveau des mammifères, là c'est au niveau des autorisations. Où vraiment, nous, on ne peut pas accueillir des espèces qui vont faire plus de 6 kilos. Donc, en taille maximum, ça va être typiquement la genette. Donc, s'il y a des auditeurs qui savent ce que c'est, donc ça ressemble à une petite panthère, on va dire, au niveau des couleurs. Ça fait la taille à peu près d'un chat avec une très longue queue. Voilà, donc c'est une espèce protégée. Donc voilà, ça va être la taille maximum qu'on peut accueillir. Donc, genette, martre, fouine, à peu près, ça fait à peu près la même taille. Mais évidemment, on ne se passe pas des hérissons et écureuils à foison, puisque c'est des espèces qu'on reçoit aussi le plus. Et on a aussi une toute petite partie où c'est qu'on peut accueillir justement les tortues. Donc là, c'est très épisodique. Ça va être sur les moments de reproduction où les mâles vont traverser les routes pour chercher les femelles, entre guillemets, sur les différents points d'eau, et où au contraire les femelles vont chercher des sites de ponte, donc où là il va y avoir des chocs routes, etc. éventuels. Donc là c'est épisodique à une certaine période, mais du coup on peut avoir du coup des tortues, et principalement celle qu'on reçoit c'est la cistude, donc espèce protégée de nos cours d'eau.
Il y a beaucoup de cistudes sur les cours d'eau, parce qu'en fait la plupart des cours d'eau sont en zone Natura 2000.
Oui, effectivement. Nous, on a de la chance sur notre territoire, on a énormément de cistudes. C'est vrai qu'on a des sites où il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup pour le coup. Il y a des référencements qui sont faits par le département, par d'autres organismes, etc. Même si, effectivement, on a toujours malheureusement la tortue de Floride qui est présente dans tous les cours d'eau, on reste quand même avec une population de cistudes qui est quand même stable sur certains endroits. On sait même qu'il y a des endroits où il n'y a vraiment pas de Floride et où on a vraiment des sites entièrement colonisés par les cistudes. Donc ça c'est quand même un avantage du coup dans notre région là.
Alors en ce qui concerne justement les espèces qui sont importées par accident souvent d'ailleurs, on constate par exemple en ce qui concerne la flore qu'on a des espèces très invasives, et en ce qui concerne les animaux il peut y avoir aussi des espèces qui prennent le pas sur les espèces locales. Est-ce que c'est le cas pour les tortues ?
Oui, exactement. La tortue de Floride est une espèce qui, du coup, déjà de base est plus grosse à taille adulte, donc est beaucoup plus imposante. Et pour faire un petit peu le lien, tortue de Floride, elle est en Floride. Face à elle, chez elle, là, elle a des alligators, etc. C'est pas du tout la même qu'ici. Donc déjà, on va dire, caractériellement, elle est beaucoup plus agressive. Donc du coup, elle va savoir s'imposer beaucoup plus facilement, que ce soit pour les sites de ponte, tous les sites alimentaires ou les sites de repos pour les bains de soleil, pour les tortues. Voilà, elle va savoir en fait s'imposer, et en fait c'est pas forcément qu'elle va être qu'elle va vraiment agresser et vraiment détruire, on va dire, la cistude, c'est qu'elle va prendre toute la place sur certains sites, et du coup la cistude aura moins de chances justement de se reproduire, de trouver de l'alimentation, etc., etc. Donc c'est vraiment une concurrence en fait à proprement dit sur ce genre d'espèce.
Vous avez dit tout à l'heure que effectivement il y a un passage très important d'animaux ou bien tout simplement d'oiseaux au niveau des couloirs migratoires. On voit bien, bon, par exemple l'Arjusan, quand même une zone d'arrêt où se reposent les oiseaux, mais parfois ils y restent. Mais il y a aussi des couloirs migratoires au niveau, je pense, de l'océan.
Oui, totalement. Nous, du coup, sur les espèces, si on parle oiseaux, nous, c'est ça qu'on va accueillir dans tous les cas. Sur le reste, je ne vais pas être spécialisée dessus. Mais sur les oiseaux marins, effectivement, on a des couloirs migratoires qui vont un petit peu être changeants. En fait, forcément, les oiseaux vont suivre l'alimentation. Donc, si les courants maritimes vont un peu dévier, si les températures océaniques vont un peu changer, les poissons vont s'adapter aussi. Et du coup, tous les oiseaux aussi vont suivre. Donc là, pour l'instant, au niveau des derniers suivis scientifiques, c'est vrai que les oiseaux marins en globalité, de toute façon, se reproduisent vraiment en Bretagne, Grande-Bretagne, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une forte affluence, nous, sur notre territoire, sur le golfe de Gascogne, et donc du coup sur toute la côte basque et landaise jusqu'au bassin d'Arcachon, il y a une grosse affluence, en tout cas, sur à peu près mi-janvier jusqu'à mars. C'est là où c'est qu'on va voir les plus grosses colonies, toutes espèces confondues, au niveau oiseaux marins. Il y a des espèces qui restent sur des périodes plus larges, ou même des individus qui restent sur des périodes plus larges, puisqu'en fait les migrations, elles sont influées par l'alimentation mais aussi par la reproduction. Donc je prends le cas des fous de bassin qui ont leur maturité sexuelle qu'à partir de 5 ans. Donc pendant 5 ans ils n'ont pas d'intérêt à repartir dans le nord sur les colonies, dans les falaises, se reproduire. Donc du coup il y a des jeunes qui vont rester sur les abords du golfe de Gascogne tout l'été sans aucun problème. Donc on peut recevoir ponctuellement aussi des oiseaux, souvent des jeunes justement, à cette période-là.
Quelles sont les principales causes qui amènent les animaux chez vous, puisqu'ils sont blessés ou disons fatigués ou en mauvaise posture lorsqu'ils arrivent ?
Alors, si on fait le top 3, sur la position numéro 1, on va avoir ce qu'on appelle le ramassage du juvénile ou l'accident d'émancipation. C'est tous les bébés qu'on va recevoir sur la période du printemps. Juvénile, voilà, d'oiseaux ou mammifères, hein, peu importe. Donc là, il y a vraiment, c'est vraiment difficile de distinguer entre guillemets les causes. Il faut vraiment prendre la situation dans sa globalité, et malheureusement des fois on n'a pas toutes les informations. Des fois malheureusement c'est des ramassages entre guillemets abusifs, c'est-à-dire que c'est des animaux qui n'auraient pas dû être ramassés parce que c'est de la malconnaissance, etc. Des fois c'est du dénichage où les petits vraiment ont été dénichés parce qu'il y a eu des travaux, parce qu'on a coupé un arbre, etc., etc. Ou alors c'est vraiment un accident qu'on appelle nous d'émancipation, c'est-à-dire que les petits ont été retrouvés vraiment en détresse, donc sortis du nid. Je prends le cas par exemple des petits mammifères où ça arrive régulièrement que des hérissons, si la femelle ne vient pas les nourrir sur plusieurs jours, les petits vont chercher justement à réagir à cette situation, ils vont sortir du nid, ils vont japper, etc. Donc c'est à ce moment-là qu'ils vont être trouvés. Au niveau du coup de la deuxième cause d'accueil sur le centre, on va dire ça fait entre guillemets un switch entre généralement la position 2 et position 3 chaque année. Des fois ça s'inverse. Mais là si je prends sur la dernière année, la position 2, c'est globalement la prédation et en général la prédation de nos animaux domestiques, en général du chat domestique. les gens ont du mal, voilà, à se rendre compte de cette cause. On pense toujours à plein d'autres choses au niveau, voilà, accueil des animaux en centre de soins, mais malheureusement, nous, c'est la deuxième cause d'accueil en centre de soins sur la structure, c'est le chat domestique. Donc voilà, donc malheureusement, on reçoit beaucoup d'oiseaux principalement et de petits mammifères à cause de ça. Et ensuite, la troisième cause, c'est le choucroute, donc qui reste assez courant. Ça va être influé en fonction des périodes aussi. Par exemple, quand on va changer d'heure en hiver, d'un coup, nous, on va vraiment rouler beaucoup plus la nuit et du coup, les animaux avaient un peu leur routine, entre guillemets. Donc là, du coup, malheureusement, on va avoir généralement une semaine où on en reçoit un peu plus. Mais voilà, ça reste la troisième cause parce que ça reste assez régulier c'est des animaux qui sont retrouvés facilement.
Alors, il y a une cause dont vous n'avez pas parlé, mais qui était à l'origine de la création d'Alcatorna, qui était les marées noires. Bon, il n'y en a peut-être plus forcément dans le coin, mais vous avez parlé de dégazage parfois.
Oui, bien sûr. Alors après, c'est difficile de dire que c'est exactement ça, mais dans tous les cas, c'est vrai que ponctuellement, chaque hiver, on reçoit des oiseaux qui sont encore mazoutés, donc à savoir d'où ça vient, puisque dans tous les cas, il n'y a pas de marée noire chaque année. D'ailleurs, tant mieux, heureusement. Oui. Mais effectivement, on reçoit ponctuellement des oiseaux marins qui sont encore mazoutés, comme on l'a expliqué, du coup, principalement l'hiver, parce que c'est là où c'est qu'il y a la forte affluence. Après, il y a aussi le phénomène tout simplement de tempête. Il n'y a pas que forcément le mazout aussi qui amène les oiseaux. L'effet de tempête tout simplement peut fatiguer certains oiseaux marins, surtout les juvéniles, qui du coup vont pas forcément avoir l'habitude, etc. Et donc du coup on peut trouver, ça reste une cause assez importante aussi pour ces animaux-là spécifiquement.
Nous voici arrivés au moment de l'intermède musical. Qu'est-ce que vous nous proposez comme chanson, Laura ?
On va rester sur du grand classique et sur du Delpech avec Les Oies Sauvages.
C'est un très beau choix.
À 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couverts de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux, par-dessus l'étang. Soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Avec mon fusil dans les mains, au fond de moi je me sentais un peu coupable. Alors je suis parti tout seul, j'ai emmené mon épagneul en promenade. Je regardais le bleu du ciel et j'étais bien. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Et tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages, j'aurais bien aimé les accompagner au bout de leur voyage. Oui, tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages. J'aurais bien aimé.
Après ce petit intermède musical qui était extrêmement agréable, nous allons repartir donc sur le deuxième volet de cette émission, L'élan de ses manatures, consacré aux animaux qui sont recueillis dans le centre Alcatorda, qui s'appelle désormais Paloum. Vous avez constaté notamment qu'il y a aujourd'hui une baisse importante, notamment des passereaux. Alors les passereaux qui couvrent évidemment un grand nombre de sous-espèces.
Oui, alors passereaux, il y a énormément d'espèces, c'est quand même très varié. Si on se renseigne, c'est vrai que c'est la branche, on va dire, où on a le plus grand nombre d'espèces, hein, on va dire, en France. Mais effectivement, oui, sur... Alors évidemment, il y a beaucoup d'espèces protégées, menacées, etc., qui sont suivies. C'est vrai que les passereaux sont relativement suivis pour certaines espèces, mais on sait qu'il y a un petit déclin sur les dernières années par rapport justement au manque de nourriture, etc., à l'activité humaine en globalité, qui du coup a tout simplement enlevé certaines zones d'accueil des oiseaux, qui a justement entre guillemets lissé certains paysages. Donc du coup les oiseaux n'ont pas forcément les points de nidification pour certaines espèces et d'alimentation par rapport aux insectes, puisque en globalité la plupart des passereaux sont principalement insectivores, surtout en période de reproduction. Tous les jeunes du coup sont insectivores pour la protéine, etc. Donc c'est plutôt cette affluence là et cette perte en fait alimentaire qui fait que justement il y a eu un déclin sur les dernières années.
Bon, il y a encore une vingtaine d'années, on avait les pare-chocs de la voiture qui étaient remplis d'insectes. C'est plus du tout le cas maintenant. Il y a quelques impacts, mais maintenant, il y en a beaucoup moins qu'il y a une vingtaine d'années. C'est absolument essentiel à la survie d'un certain nombre d'espèces, en particulier des petits rongeurs, ou bien tout simplement des oiseaux. Et là, en effet, on a modifié l'ensemble des pratiques agricoles quand même, et l'ensemble du paysage qui, avec les remembrements, a supprimé les haies.
Le fait qu'on ait enlevé du coup toutes les haies et qu'on a enlevé toutes les zones, on va dire, ben forcément il y avait des zones humides aussi qui ont été effacées, et effectivement c'était des apports en fait, on va dire, des zones de biodiversité et des apports alimentaires aussi. C'est qu'il y avait vraiment toute la chaîne alimentaire qui correspondait et qui était présente dans ces milieux-là. Donc on a un peu enlever tout ça sur certains territoires, et du coup certains territoires se sont un peu appauvris à ce niveau-là, et qui ont fait que certaines espèces ont disparu de certains secteurs. Alors on perd pas espoir, hein, dans les Landes ça va, on est quand même relativement bien logé quand même, hein. Les milieux sont quand même très bien conservés. D'ailleurs la Fédération des chasseurs des Landes a plein d'actions en faveur justement de la biodiversité. Ils plantent des haies régulièrement chaque année et des kilomètres avec des agriculteurs, etc. Même tous les sites protégés, etc., qu'ils ont en gestion montrent justement leur faire-valoir et leur connaissance dans ce milieu-là. Donc il y a des endroits, voilà, qui sont protégés et qui sont conservés, où c'est qu'on constate, voilà, qu'il y a pas mal d'espèces qui reviennent, mais c'est vrai que c'est ponctuel et c'est pas vraiment homogène, on va dire, sur le territoire.
Alors vous aviez tout à l'heure donné un exemple des problèmes que peut rencontrer la nidification avec l'hirondelle.
Oui, c'est vrai que l'hirondelle, typiquement, elle va avoir du coup besoin pour nidifier de boue, donc de matière humide, avec les températures qui augmentent chaque année, chaque été. On l'a constaté cet été, qui était absolument atroce, surtout pour notre région et avec tous les feux qui a pu avoir, malheureusement. Mais effectivement, ça reste très sec, et du coup, c'est compliqué pour ces animaux-là de trouver du coup des sites de nidification qui correspondent à leurs besoins. Si la nidification se fait relativement tôt, le nid peut être construit, mais ils ont besoin de le consolider tout l'été, et malheureusement c'est ça aussi le problème, c'est que du coup il ne peut pas être consolidé durant l'été. S'il y a vraiment une grosse sécheresse, le nid peut vite sécher et vraiment être friable, se casser, et du coup là si le nid est cassé, les petits sont abandonnés, ils peuvent pas refaire de couvée. Donc effectivement il y a une diminution là à ce niveau-là. Après ça reste un facteur, mais c'est pas le principal facteur de la diminution des hirondelles, mais ça joue dans tous les cas fortement.
Est-ce que vous avez constaté un impact des incendies de cet été ?
Alors, par rapport aux incendies de cet été, c'est vrai que, voilà, bon, dans tous les cas, comme c'était vraiment centralisé, les gros feux étaient vraiment sud Gironde, nous, en tant que centre de soins, on n'a pas été appelés à proprement dit pour des animaux, sachant qu'en plus, nos autorisations concernent les oiseaux et les mammifères de moins de 6 kilos. Donc, c'est vrai que ce qui a été principalement retrouvé, c'est beaucoup de chevreuils. Il y a eu un peu de renard, il me semble. Et après, il y a eu vraiment quelques petits animaux, mais vraiment, c'était très peu, malheureusement pour eux. Je pense que dans les feux et dans le brasier qu'il y a eu cet été, je pense que malheureusement il y en a beaucoup qui n'ont pas survécu et on s'en doute, hein, tous les petits mammifères et les petits animaux n'ont pas pu fuir vu la grandeur du feu et le dégât que ça a causé.
Alors vous vous occupez aussi des petits mammifères, vous avez énuméré les genettes, les hérissons, les écureuils. Tiens, on va parler des genettes, vous m'avez expliqué donc à quoi correspondait la genette.
Alors oui, c'est un animal qui est très discret, qu'on voit très rarement. D'ailleurs, il y a très peu de gens qui connaissent cet animal-là. Pour ceux qui connaissent pas, du coup, je vous invite à aller voir sur internet à quoi ça ressemble. Vraiment, c'est voilà, une petite panthère, on va dire. Voilà, ça fait la taille d'un chat avec une très longue queue, avec des taches, voilà, un peu comme une panthère. Par contre, ça fait partie de la famille, un peu comme les mangoustes. Ça, d'ailleurs, c'est un peu la même tête. Donc, dans tous les cas, cette genette, donc c'est une espèce protégée, mais elle n'est pas originaire d'ici. C'est un animal qui, si on remonte très très loin, du coup, qui originaire d'Égypte, donc c'est à l'époque du Cléopâtre, aimait beaucoup, on va dire, ces animaux-là. D'ailleurs, bon, sur les fresques égyptiennes, etc., on voit souvent des chats représentés. Donc en fait, c'était les genettes qui étaient représentées. C'était leur chat domestique. C'est les Romains qui, quand ils sont allés en Égypte, ont ramené cet animal-là, parce que bon, un chat domestiqué, ils trouvaient ça intéressant, donc ils l'ont ramené en Europe, etc. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des genettes dans nos forêts. Mais dans tous les cas, l'espèce est protégée et c'est très bien acclimaté. Il n'y a aucun dégât, dans tous les cas, au niveau biodiversité et écosystème sur cette espèce-là. Elle s'est très bien acclimatée, donc il n'y a pas de souci à avoir dans tous les cas. Et par contre, pour les observer, c'est vrai que c'est très difficile, donc il faut être très très discret, et ou alors il faut utiliser des pièges photos, malheureusement, comme beaucoup font maintenant, pour pouvoir les observer et avoir leur comportement.
Il n'y a pas de risque de croisement avec des chats domestiques?
Absolument pas, vu que ce n'est pas du tout la même famille, donc même pas la même, voilà, c'est vraiment pas la même famille, donc il ne peut absolument pas y avoir de reproduction entre ces deux animaux, absolument pas.
Il peut y avoir par exemple des croisements entre sangliers et cochons, ça donne des cochons sauvages qui sont un petit peu comme des sangliers.
Oui, bien sûr, ce croisement peut exister parce que justement c'est la même espèce. Là c'est la même espèce parce que justement le cochon est l'animal domestique du sanglier, donc effectivement au niveau génétique ça peut fonctionner, mais si on prend le cas de la genette et du chat, ce n'est pas du tout, voilà, comme ils font même pas partie de la même famille, que le chat c'est le félin et la genette c'est les viridés, il n'y a pas de problème là-dessus.
Bon, alors les possesseurs de chats vont être rassurés, ils n'auront pas un de ces jours une portée de chat avec des petites taches un peu bizarres. Alors, évoquons rapidement les écureuils et puis ensuite on parlera encore d'un autre sujet, les hérissons. Parce que vous m'avez dit, par rapport à la nourriture des hérissons, parce que les gens sont très sensibilisés maintenant aux hérissons, il y a effectivement peut-être des erreurs à ne pas commettre.
Oui, effectivement. C'est vrai que le hérisson est une espèce, on va dire, très appréciée. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on constate, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, etc., sur Internet. Il y a beaucoup de pages, beaucoup de forums sur ces animaux-là. Il y a beaucoup de conseils qui sont donnés et malheureusement, des fois, des mauvais conseils. Parce que c'est vrai que les gens ont tendance à vouloir aider ces animaux-là, et du coup en voulant les aider, ils veulent du coup justement leur apporter une alimentation, ce qui n'est pas forcément conseillé. Ça reste des animaux sauvages, le but c'est que justement ils aient un régime adapté à leur espèce, et malheureusement ce qui est souvent, ce qu'on entend souvent et ce qu'on voit souvent, hein, d'ailleurs, c'est le fait de donner des croquettes justement aux hérissons. Malheureusement ça crée beaucoup de dommages dans les croquettes, bah, du coup il y a des additifs, donc les hérissons eux vont y aller, hein, c'est pas parce que justement ils vont le manger que c'est bon pour leur santé dans tous les cas. Ils vont y retourner régulièrement, c'est la nourriture facile. Le hérisson est principalement insectivore, donc forcément, comme on l'a expliqué tout à l'heure, comme il y a une diminution sur certains secteurs, c'est un peu plus difficile. Ils vont se rabattre à la facilité dans les résidences, voilà, sur les zones périphériques, urbaines, etc., où justement il y a des croquettes à disposition, souvent pour les chats errants. ou tout simplement pour eux, hein, puisqu'il y a des gens qui le font. Mais malheureusement, ça crée de gros dommages, puisque c'est pas adapté pour eux, c'est pas adapté à leur système digestif, et du coup, sur du long terme, ça crée de dommages rénaux. Ça peut créer ce que nous, on voit souvent, malheureusement, de plus en plus en centre de soins, de l'obésité. C'est bête à dire, mais recevoir un animal en soins parce qu'il est obèse, ça ne devrait pas arriver pour moi. Normalement, dans la nature, ça n'arrive pas. Mais vraiment, voilà, quand on dit qu'il est obèse, c'est-à-dire que l'animal ne peut pas se mettre en boule correctement. Voilà, donc c'est dangereux pour lui dans le sens où il a plus son mode de protection naturelle. Et du coup, le fait est que il est arrivé à ce stade-là. Malheureusement, nous, sur les structures, on les reçoit. Malheureusement, ils peuvent facilement faire des crises cardiaques parce que trop de masse graisseuse, etc. Donc c'est pas du tout bon pour eux, surtout que voilà, malheureusement il y en a qui le font à longueur d'année, et ça c'est vraiment vraiment à proscrire, puisque en période de reproduction ou autre, il faut vraiment qu'ils aient un apport de protéines en insectes, vraiment qu'ils recherchent leur nourriture tout seul, on va dire, pour pouvoir, ne serait-ce pour les femelles par exemple, apporter un lait de qualité aux petits, et que justement il n'y ait pas de carence par derrière, et que sur les prochaines générations il n'y ait pas de conséquences. Donc vraiment les croquettes à vraiment limiter voire interdire sur les hérissons. Si on nourrit des chats sauvages, le conseil que je préconise, les chats grimpent très très bien, donc mettre la gamelle en hauteur à 50-60 cm sur une table, sur une chaise, peu importe. Le chat pourra toujours y avoir accès, mais le hérisson non, donc ça évitera de faire des bêtises et d'éviter ce genre de choses.
Alors ça nous amène à la question des vétérinaires. Cela nous amène à la question, effectivement, de l'intervention des vétérinaires, donc avec le centre de soins.
Oui, bien sûr. Du coup, les vétérinaires, effectivement, nous, on a un vétérinaire référent, notre vétérinaire sanitaire, qui est le docteur Leroy, donc qui est à la clinique de Bamako. Voilà, donc c'est lui qui suit sanitairement parlant la structure et qui va nous faire toutes les chirurgies, etc. On n'a pas de vétérinaire embauché sur la structure, c'est très compliqué. Déjà parce qu'il n'y a pas des chirurgies à faire tous les jours. et parce que ça a un coût énorme. Déjà, on essaye de financer déjà les salaires qu'il nous faut. Donc, un vétérinaire, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est ce vétérinaire qui nous fait toutes les chirurgies. Et après, on a une autre vétérinaire aussi bénévole qui vient régulièrement, qui est spécialisée justement dans les NAC et qui, du coup, peut faire des chirurgies plus spécifiques. Parce que c'est vrai que la faune sauvage, ça reste quand même très spécifique. C'est pas du tout des actes classiques qu'il peut y avoir en clinique vétérinaire chien-chat. La chirurgie osseuse que nous on peut avoir régulièrement, puisque c'est souvent ça va pas être du tout le même type de maladie ou le même type de symptômes ou autre ou de prise en charge que des animaux domestiques, même si on reste dans le cadre des NAC, des nouveaux animaux de compagnie. Un vétérinaire qui fait du NAC, voilà, il recevra pas forcément, ça sera pas du tout la même gestion. Un NAC domestique, apprivoisé, etc., il arrivera pour d'autres symptômes, pour d'autres causes, qu'un animal sauvage qui vraiment c'est totalement autre chose. C'est souvent voilà, des chocs, etc., des fractures, vraiment des chirurgies osseuses, donc c'est vraiment très spécifique. Et donc là, il nous faut justement des vétérinaires qui ont les formations pour. Malheureusement, il y en a très peu qui l'ont. Donc c'est vrai que c'est compliqué aussi pour certains individus. Des fois, on fait de la route, on va dans des cliniques vraiment spécialisées qui savent faire des chirurgies très pointilleuses pour certaines espèces. Mais sinon, après, c'est nos vétérinaires, donc le docteur Leroy à Bamako, qu'on remercie encore de nous soutenir. Et du coup, donc Julie Tucoulet qui est vétérinaire aussi, bénévole, qui vient régulièrement et qui nous font les chirurgies sur la structure.
Pour terminer donc cette seconde émission, vous allez donner les coordonnées du centre, puisque vous avez toujours besoin de bénévoles. Vous aurez besoin encore de davantage de bénévoles, sans doute, dans l'avenir. Alors, que dites-vous aux auditeurs ?
Alors, pour ceux qui veulent nous soutenir, du coup, n'hésitez pas à aller aller suivre tous nos réseaux sociaux, donc sur Facebook, Instagram, Twitter, etc. On est présents, toutes les activités du centre sont référencées, on y met voilà, un peu comment ça se passe quotidiennement, le suivi de certains animaux, etc. Et après, pour ceux qui veulent vraiment des informations plus précises, qui veulent nous aider bénévolement, n'hésitez pas à envoyer un mail du coup à contact.paloum@gmail.com pour du bénévolat. Donc à ne pas hésiter du coup à nous solliciter. Et merci à tous.
Il ne faut pas donc mettre Alcatorda maintenant, il faut chercher Paloum.
Exactement. Là, du coup, on va travailler là-dessus. Mais effectivement, maintenant, c'est pas l'oum, c'est plus Alcatorda. Même si je sais que dans l'esprit de certaines personnes, ça restera Alcatorda. Mais effectivement, là, dans tous les cas, tous nos réseaux sociaux sont au nom de Paloum.
Un numéro de téléphone ?
Donc, le numéro de téléphone de la structure, du centre de soins, c'est le 06 82 20 00 10. Donc voilà, donc si vous trouvez un animal en détresse, donc c'est plutôt pour vraiment pour cette ligne-là, pour éviter de la surcharger, si c'est des demandes de bénévolat, etc., vaut mieux prioriser par mail. Mais un animal à prendre en charge, nous appelez évidemment sur ce numéro-là.
Merci beaucoup pour cette interview, ces deux interviews. Je suis certaine que vous aurez des réponses, bien entendu. Je vous dis au revoir et à Dichats à nos auditeurs.
Merci à vous, Adi Schatz.
C'était Les Landes et ma nature, l'environnement dans notre région, avec Jeanne-Marie et Marie-Claire.